Des averses sur le massif central et sur les Alpes, quelques-unes aussi près de nos frontières du nord, beaucoup de nuages toujours jusqu'au centre. Et là où il devrait y avoir le plus de soleil demain après-midi, c'est en Bretagne.
Des maths, bonjour, Gaël est à la technique et Yves Averti est au micro pour le numéro 288 de Bretagne Zone Heureuse, le magazine de l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique. Ce sera aujourd'hui la troisième émission où nous ferons écho au mois du breton et du gallo organisé en Loire-Atlantique et dans toute la Bretagne pendant le mois de mars. Nous recevons aujourd'hui Bertrand Luçon, auteur du livre « Nom de lieu breton du pays nantais », livre qu'il présentera lors d'une rencontre-débat proposée le mardi 21 mars à 20h au Centre culturel breton Yézou à Sévenadur, 12 avenue de l'Angevinière à Saint-Herblain. La pratique du breton est généralement associée à l'ouest de la Bretagne. Cependant, les populations de langue bretonne qui ont vécu en pays nantais y ont laissé une empreinte fort tangible sous la forme de noms de lieux nombreux et variés. C'est ce que Bertrand Luçon met en valeur dans son livre où l'on trouve la synthèse de plus de 10 années de recherche et d'études documentaires. Bertrand Luçon, bonjour.
Bonjour Yves.
Alors j'ai lu bien, je pense, ton texte de présentation de ton œuvre, parce que c'est vraiment une œuvre importante. Dans Nom de lieu breton du pays nantais, tu étudies et présentes plus de 4000 toponymes bretons du pays nantais.
Oui, alors j'étudie un des aspects particuliers du pays nantais, qui est la présence de noms de lieux bretons dans un nombre plus important qu'on ne pourrait le penser.
Alors le pays nantais, on va, avant de parler des noms bretons, le pays nantais. Tu as décidé de ne pas dire Loire-Atlantique, mais pays nantais.
Alors oui, c'est un choix qui tient à la cohérence historique du territoire. Alors la raison principale, c'est d'une part de se dégager des questions administratives et de l'autre côté, comme tu le disais, c'est une étude qui est basée sur une recherche documentaire. Donc entre autres, l'extraction des formes anciennes des noms de lieux, qui est très importante pour définir leur étymologie. Et les documents qu'on utilise pour faire ce travail-là sont des documents qui renvoient à une organisation territoriale largement antérieure à la Révolution et à la création des départements. Oui, sans vouloir trop rentrer dans les détails.
Et Loire-Atlantique, de toute façon, c'est depuis 1957. Hein. Avant, c'était Loire-Inférieure.
Voilà. Créé en 1790, comme tous les départements français.
Donc le pays nantais, donc, pour le définir un peu plus, c'est le sud de la Vilaine ?
Oui, c'est ça. Le pays nantais, donc au sud-est de la Bretagne, fait sa limite au nord avec le pays rennais, au nord-ouest avec la Vilaine, pour schématiser, au sud avec la Vendée, à peu près, et à l'est avec l'Anjou.
Voilà, donc c'est dans ce pays que tu as trouvé les noms de lieux bretons. Alors comment as-tu cherché ?
Eh bien, il a fallu d'abord établir un corpus général de tous les noms de lieux du pays nantais, ce qui a été une grosse partie du travail en premier lieu, parce que pour identifier les noms de lieux bretons, il faut déjà avoir un corpus de noms de lieux, tout court. Donc j'ai cherché dans toutes les sources susceptibles de me fournir des noms de lieux, à commencer par les cartes IGN, bien entendu, donc l'Institut Géographique National, particulièrement les cartes d'état-major à l'échelle 1/25 millième, qui sont celles qui comportent le plus de noms de lieux sur les cartes routières.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les paroisses ou les communes, il y a les lieux-dits, les villages, les hameaux.
Voilà. C'est un aspect particulièrement important du travail, puisque comme on va sûrement l'aborder plus tard, 70% des noms qui sont étudiés dans ce livre sont des noms qui ne figurent sur aucune carte. C'est-à-dire qu'ils figurent par exemple au cadastre, cadastre napoléonien, donc établi dans la première partie du 19e siècle, mais ils n'ont pas d'existence écrite sur des panneaux ni sur des cartes.
Alors donc tu as cherché très loin, donc tu as cherché tous les noms, et donc on va aller à grands traits là avant de venir plus près, mais comment as-tu défini que c'était des noms bretons ?
Alors juste une petite chose avant d'en arriver là, donc j'évoquais le cadastre qui est l'autre source la plus importante après les sources cartographiques routières ou d'état-major, donc c'est le cadastre napoléonien donc, qui lui comporte tous les noms de parcelles. Donc les parcelles, c'est l'unité de la propriété foncière en France. Donc par exemple, ça peut être un champ, ou ça peut être une maison, tout simplement, ou même un petit bout de chemin, parfois. Et ça, c'est une base de données toponymiques qui est infiniment plus riche que tout ce qui existe. Voilà, donc ça a été la source principale ensuite de ma recherche. Il faut savoir que j'ai étudié donc pour le pays nantais, j'ai un fichier où j'ai à peu près 300 000, peut-être un peu moins, 300 000 noms de parcelles pour le pays nantais.
Et est-ce que tu aurais pu faire ça avant l'informatique ?
Je pense pas. Je pense que alors, des travaux similaires ont été initiés au début du XXe siècle, entre autres par Joseph Lotte, qui avait dit « Je vais étudier tout le cadastre de la Haute-Bretagne et je vous montrerai mes résultats et vous verrez ». Et comme par hasard, les résultats ne sont jamais sortis. Donc je pense qu'il y avait une difficulté préalablement à l'avènement de l'informatique et de toutes ces applications, qui était une difficulté de volume, de traitement de volume d'informations.
Alors, donc, je reviens à l'une de mes précédentes questions. Comment as-tu défini que c'était des noms bretons ?
Il y a deux manières de procéder. Donc, déjà, on va dire qu'il y a la première façon, c'est on dégage d'abord des noms qui ont une apparence bretonne. Je vais prendre un exemple clair et simple. C'est un nom de lieu qui commence, par exemple, par un préfixe breton clairement identifiable, comme « Caire ».
Évidemment.
Si on est face à un nom qui commence par « Caire », il y a de fortes chances que ce soit un nom breton. Également, avec un nom commençant par « tré », par « coué », »,« couette », »,« bois », etc. Bon, donc, il y a des préfixes très reconnaissables, ainsi aussi que des suffixes, hein, c'est-à-dire les terminaisons de mots qui sont parfois également très reconnaissables. Donc, on va d'abord dégager, à partir de cette base de données, un ensemble de noms de lieux qui ont une apparence bretonne, on va dire ça comme ça. Ensuite, la partie la plus importante peut-être du travail, c'est d'extraire les formes anciennes, donc des sources d'archives. Ça veut dire aller aux archives départementales.
Ça veut dire aller vers d'autres documents.
Voilà. Et cette fois-ci, aller dans des documents qui ne sont plus des sources modernes ou contemporaines, mais des sources anciennes, où là, on va retrouver l'ancêtre de la déclaration d'impôt, qui sont les aveux, donc qui sont des documents d'ancien régime, où les gens... En gros, hein, pour schématiser, déclarer leurs biens à leur suzerain, à leur seigneur. Et qu'est-ce qu'ils déclaraient ? Ben, à l'époque, les biens, c'était des terres, des habitations, des salines en pays guérandais. Et donc, on a les noms des terres, des habitations, des lieux cultivés et habités tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution et même après, hein, dans ces documents.
Donc, tout ça, ben, tu l'as découvert petit à petit, on va dire. Pourquoi, comment, on le dira un peu plus tard dans l'émission, comment t'es arrivé là, toi ? Parce que moi, je te connaissais pour une autre raison, c'est que je te connais avec un banjo à la main et tu fais de la musique irlandaise. Et comme c'est étonnant, tu as choisi un morceau de musique irlandaise pour commencer cette émission. C'est le groupe Dervish. Oui. Donc, Dervish est un de tes groupes préférés
C'est un groupe que j'aime beaucoup, en effet. J'ai beaucoup de groupes que j'apprécie énormément en musique traditionnelle irlandaise, hein, je précise. Et donc là, j'ai choisi une chanson en langue gaélique. Sora wa hira wa, es so ira wa, chukato.
dimension out of war. It's my budget, but have we left to go home? Not just on a hope and not broad, that way it a war, friend that could go. It's all a way to war, it's all a way to war, you could go. Be a sake, be a hoggy, son, oi, be fat, not a key. It's my heart, a glut, a vela, not good, friend, and the cabaret. It's all a way to war, so a way to war, you could go. Mara chukadu wa yalhu ka washta rinsin lakhu Eto ra waira wa hor Eto waira wa hor chukadu Mara chukadu wa yalhu ka washta rinsin lakhu Eto ra waira wa hor Eto waira wa hor chukadu
Ils sont nombreux à applaudir le groupe Derviche, tout comme notre invité aujourd'hui, Bertrand Lusson, qui aime beaucoup la musique irlandaise, qui en pratique lui-même, et qui vient pour aujourd'hui nous parler d'un livre qui paraît sous le titre « Nom de lieu breton du pays nantais », dont tu l'as écrit, tu as fait paraître ce livre chez Joran M. Bonner, donc c'est un livre concret, c'est beaucoup de travail sur 10 ans, mais comment se fait-il que quelqu'un qui joue du banjo et puis d'autres instruments, enfin qui connaît bien la musique irlandaise, qui est musicien professionnel, on arrive à écrire un livre aussi précis, aussi documenté sur les noms de lieux bretons en pays nantais.
Tout d'abord parce que c'est un sujet qui m'intéresse, bien sûr, sinon j'aurais pas pris la peine de le faire. Non, mais c'est surtout que à l'origine, je suis de formation linguistique, enfin, je suis linguiste.
Bon, ça explique. Mais tu n'es pas linguiste particulièrement en breton. Enfin,
non,
tu n'as
en
pas fait...
anglais et en allemand.
En anglais. Donc tu peux faire quand même des comparaisons. Tu as une bonne connaissance des mots du latin, par exemple ou...
Non. Oui, sans plus. Hein.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené à vraiment au nom de lieu breton et du pays nantais? Parce que tu es du pays nantais.
Oui, alors moi je suis nantais. Hein, donc, et comme tout nantais, j'ai fréquenté le pays nantais dans... dans ma jeunesse. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion d'aller très souvent dans le pays de Guérande, entre autres. Et je me souviens avoir pris conscience, assez petit, peut-être vers l'âge de 12-13 ans, qu'il y avait plein de non-lieux bretons là-bas. Alors, me demande pas pourquoi ni comment, mais je me souviens d'avoir eu cette révélation en regardant les panneaux, en me disant « Tiens, c'est bizarre ». Et après, je me souviens être rentré chez moi, avoir pris une carte routière et regarder le pays de Guérande sur la carte routière et avoir été étonné du nombre de non-lieux en Caire qu'il y avait là-bas. Qui, pour moi, dans ma tête d'adolescent, les non-lieux en Caire, c'était à Brest, quoi.
Ah oui, d'accord. C'est ça, la base. Mais ça veut dire que tu savais que le breton existait et tu étais capable de voir que ce mot était breton.
Oui, bien sûr. Je pense que j'avais une conscience assez vague de la chose. Que ce soit par la vie de tous les jours et le fait qu'on avait encore peut-être un peu plus conscience qu'aujourd'hui à l'époque d'être breton à Nantes.
Ouais. Hein. Mais donc tu as appris le breton? Comment ça s'est passé?
Oui, j'ai appris un peu le breton, sûrement pas de manière parfaite, je le parle un peu, je suis pas un celtisant.
Mais tout ça, c'est des énigmes pour les gens qui nous écoutent. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la recherche sur les documents. C'est de montrer que l'importance de la présence de mots bretons, on va dire de mots d'origine celtique, sur le pays nantais. Peux chiffrer maintenant le nom.
Alors, il y a cet aspect-là, sur lequel je vais revenir. Mais l'aspect principal aussi, c'était peut-être de répondre à un certain nombre de questions qui étaient vraiment en suspens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on arrête quelqu'un dans la rue, on lui dit « Y a-t-il des noms bretons en Loire-Atlantique ou en Pays Nantais ?» La personne risque d'ouvrir de grands yeux, ébahis, et de dire « Ah bon, mais non, pas du tout. » Et je pense que c'est pas du tout un fait acquis pour les gens qu'il y ait une empreinte de la langue bretonne aussi forte dans les noms de lieux de la Loire-Atlantique.
Alors, ce que tu montres peut-être dans ton livre, c'est qu'il n'y a pas de rupture, les histoires de frontières toponymes, enfin, pas toponymiques, peut-être de pratiques de la langue courante, disons, au 19e siècle, cette histoire de lignes et tout ça. Oui. Tu dis, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de rupture du breton entre Brest et Nantes, pour toi.
Ah bah, je veux dire, qu'est-ce que tu entends par là? Tu parles des frontières linguistiques aux différentes époques.
Oui, d'utilisation de la langue bretonne, enfin de la présence.
Bien sûr que la langue bretonne a été parlée en pays nantais. La preuve en est faite par ces noms-lieux, justement, ce qui est peut-être leur premier intérêt, hein, je dirais. Les noms-lieux peuvent être considérés comme un marqueur culturel. Quand on reconnaît un nom-lieu breton, on sait qu'on est en Bretagne. Voilà, bon, ça c'est une première chose. Et ensuite, les noms-lieux ont une importance d'ordre linguistique et historique. Sans vouloir rentrer dans des considérations pompeuses, on en sait très peu sur les origines de la langue bretonne, on en sait très peu sur l'état de la langue au Moyen-Âge, par exemple. On n'a quasiment pas de traces écrites. Donc les noms de lieux de la Bretagne vont fournir plein de renseignements d'ordre linguistique. C'est-à-dire qu'on va avoir dedans, on va avoir les mots qui étaient employés par les gens, les constructions qu'ils employaient, les types de dérivations, ce qui, en termes de linguistique, ce sont des informations de premier ordre.
Alors il y a quelque chose que, en feuilletant ton livre, je n'avais pas pensé jusqu'à maintenant, c'est le nombre de gens qui pratiquent dans un lieu. Parce qu'on dit, donc la presqu'île garantaise, c'est sûr aujourd'hui même les noms des communes, sans aller dans les petites parcelles, on reconnaît que ça peut être du breton qui a peut-être évolué au niveau même de la façon dont on l'écrivait et tout ça. Bon. Mais moi ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en effet il y avait des endroits peut-être plus peuplés que d'autres et que la presqu'île guérandaise et Nantes, en gros la ville de Nantes, était très peuplée et qu'en campagne il peut y avoir beaucoup moins de gens. Donc la présence même de langue bretonne à certaines époques était importante parce que c'était les zones peuplées où les gens parlaient breton.
Ah oui, d'un point de vue numérique, on estime que depuis le haut Moyen-Âge, c'est M. Alain Galissé dans son ouvrage sur le Guérande et le pays guérandais au Moyen-Âge, qui estime que depuis le 9e siècle à peu près, le pays de Guérande est la seconde zone la plus peuplée du pays nantais, après la ville de Nantes elle-même. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, si on regarde les densités de population, on a l'agglomération nantaise d'un côté, et ensuite Saint-Nazaire et la presqu'île de Guérande. Donc c'est pas du tout anodin de considérer qu'il y a eu une pratique très forte du breton en pays de Guérande, mais pas seulement, parce que, chose très importante, il faut absolument pas limiter la pratique du breton au pays de Guérande, on en parlera peut-être plus tard, mais le breton a été parlé bien plus loin que ça, puisqu'on trouve des noms-lieux bretons à Nantes. Donc la fameuse phrase « on n'a jamais parlé breton à Nantes » n'est ni plus ni moins qu'un contresens.
Alors quel exemple, par exemple?
Le Lokidik,
un nom de lieu. Et c'est un nom ancien sur Nantes, Lokidik?
Oui, le Lokidik, c'est un nom de lieu qui est attesté au XIe siècle, et qui est sous la forme Loskidik, qui veut dire en vieux breton « brûlé », l'endroit brûlé.
Ah oui, bah oui.
Donc, si on n'a jamais parlé breton à Nantes, ça veut donc
pourquoi
dire
on
que,
l'a appelé,
que ce nom est tombé des cieux ici.
Voilà. Voilà, comme la foudre pour le brûler.
Voilà.
Donc tu as choisi des titres pas surprenants comme le groupe irlandais, mais là tu as aussi choisi Bruce Springsteen, qui ne chante pas en irlandais, lui, et qui chante en anglais.
Pas du tout. Je crois qu'il a un côté irlandais du côté de sa mère.
C'est bien possible.
Mais en fait, bon, c'était surtout pour montrer un autre aspect de ses chansons, peut-être un peu moins rock lourd. Woke up this morning, the house was cold. Checked the furnace, she wasn't burning. Went out and hopped in my old Ford. Hit the engine, but she ain't turning. Giving each other some hard lessons lately. We ain't learning. Well, the same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. Bird on a wire outside my motel room, but he ain't singing. Girl in white inside a church in June, but the church bells ain't ringing. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step up and two steps back.
Bruce Springsteen, One Step Up, donc choisi par notre invité du jour, Bertrand Lusson, à l'occasion, il est invité de ce jour, pas la musique, mais à l'occasion de la sortie de noms de lieux bretons du pays nantais. Donc on va continuer jusqu'à la fin de ces émissions à parler de ce livre très important, hein, parce qu'il y a peu de gens qui ont été aussi loin, et notamment, comme on le disait tout à l'heure, grâce aux techniques d'aujourd'hui, hein, grâce à l'informatique, à analyser plein de noms de lieux. Tu as quand même travaillé pendant 10 ans. Donc, est-ce que tu peux dire jusqu'où le breton allait, était parlé, ou a donné des noms de lieux dans le pays nantais, c'est-à-dire jusqu'où, vers l'est, on va dire, et vers le sud?
Bon, une des... Alors, je me place d'abord par rapport aux travaux préexistants. Donc, une chose très importante, c'était le livre de Jean-Yves Lemoine, qui est sorti en 1990, qui était nom de lieu breton de Haute-Bretagne, dans lequel était mis justement très clairement en avant le fait qu'il y avait beaucoup de noms de lieux bretons en pays nantais. Bon, ça, c'était une découverte pour moi qui aussi m'a mené à faire ce travail. Je me suis dit, il faut chercher plus loin. Il y a manifestement beaucoup de choses ici, au sud de la Vilaine, et on sait en plus, depuis les travaux récents, que le breton a été parlé au pays de Guérande jusqu'à l'époque contemporaine, hein, puisque les derniers locuteurs traditionnels, autochtones, du breton du pays de Guérande se sont éteints vers 1970. Donc c'est vraiment... c'est hier soir. Hein.
Donc il y a des gens qui ont étudié, qui ont pu même les rencontrer à l'époque.
Voilà, donc il y a du matériel aujourd'hui qui commence à être porté à la connaissance du public grâce aux travaux de Gilles Daburon.
Il a notamment fait une exposition sur le breton du pays guérandais.
Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui se met petit à petit en place sur l'importance du fait linguistique breton au sud de la Vilaine, qui est donc un fait récent pour ce qui est du pays de Guérande.
Alors donc on a dit donc jusqu'où
Je dirais partout.
C'est-à-dire partout, ça veut dire jusqu'à Ancenis.
Oui, c'est fort probable. On a quelques noms de lieux d'apparence bretonne et avec des formes anciennes qui semblent aller dans ce sens dans le pays d'Ancenis.
Et dans le Sud-Loire, je sais pas moi. Pornic, c'est un vrai nom breton.
Pornic semble être une formation bretonne, puisque les formes anciennes au Xe siècle qui sont par exemple, on a au XIIe siècle, on a Porsnis. Ou des choses comme ça qui font penser à un nom-lieu vieux breton.
Et puis c'est un port,
un port, oui, certainement un port abrité, tout simplement.
Ah oui, d'accord, donc c'est peut-être aussi des marins qui sont installés par là, parce que...
Ça paraît assez logique. Mmh.
D'accord, donc on trouve ces noms importants, donc c'est vrai que grâce au cadastre, tu as pu trouver aller plus loin.
Alors donc, juste pour finir sur cette question de la répartition des noms-lieux bretons dans le pays nantais, on va dire qu'on les trouve en quantité... suffisante hein, pour que ce soit important, que ce soit considéré. À l'ouest d'une ligne qui part en gros de Sion-les-Mines, tout au nord du département, près de Châteaubriant, qui ensuite va joindre Nord-sur-Erdre, donc sur le cours de l'Erdre, et ensuite va juste longer le nord-ouest de Nantes en passant par Vigneux, va aller jusqu'à Bouët-sur-la-Loire, et ensuite au sud de la Loire, on va trouver des noms-lieux bretons en petite quantité, en quantité résiduelle si on veut, à l'ouest d'une ligne qui joint Paimboeuf, qui est lui-même un toponyme breton, jusqu'à Pornic.
Alors, quand cette langue bretonne a-t-elle été parlée à ces endroits-là?
Alors, d'après des travaux des plus grands celtisans, il existait déjà au VIe siècle en pays nantais une zone de langue celtique qui couvrait au moins un tiers du territoire.
Ah oui, du pays nantais historique.
Oui. D'accord. Ce qui n'est pas sans poser quelques questions, puisque le pays nantais ne deviendra breton qu'en 851.
Ah oui, mais c'est peut-être parce que c'est des gens petit à petit se sont installés. Mais c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a ces mots-là. C'est plein de questions, en fait, ton livre. Tu fais un livre de dizaines de pages et tu as encore beaucoup de questions à poser. Et tu ne peux plus rencontrer les témoins de l'époque.
Il y a des questions qui sortent du domaine de la toponymie, l'étude des non-lieux, quoi.
Alors donc il faut beaucoup d'interprétations pour en arriver là. Alors je vais te poser une question très précise, parce que tu m'as impressionné sur un nom de lieu très connu en Loire-Atlantique qui s'appelle Guérande. C'est une des villes historiques de la Bretagne. Donc quand on va à Guérande, on voit une pancarte marquée Guérande et en dessous Gwenrande, et on nous explique que Gwenrande, ça veut dire pays blanc. On dit Rande c'est pays, Gwen c'est blanc. Alors tu es d'accord pour dire que Gwen c'est blanc. Et puis donc, puisque c'est les marais salants, ben voilà, c'est Guérande. Et toi, tu penses que c'est pas tout à fait vrai ?
Alors, ce n'est pas moi, personnellement. C'est Léon Fleuriot qui, en 1964, Léon Fleuriot, sûrement l'un des plus grands celtisans hein, que la France ait connu, la Bretagne ait connu, qui disait en 1964 que le vieux breton Gwenrand, qui a donné donc le nom de Guérande, signifie plus vraisemblablement « parcelle sainte consacrée » que le pays blanc. Alors le pays blanc, c'est une interprétation qui provient de monsieur Léon Maître, hein, qui était l'archiviste de la Loire inférieure et qui a écrit ça en 1894. Et c'est une interprétation fautive, puisque le sens du mot ran en breton moderne, en effet, maintenant veut dire aussi bien un département qu'un voilà,
on dit Randvro, c'est la région Bretagne, Randvo-Brez.
Voilà. C'est le sens en breton moderne, et en breton ancien, en vieux breton, Rand n'avait que, enfin, deux sens principaux, qui étaient par, parcelle, et surtout domaine agricole. Donc on le trouve assez fréquemment adjoint à des noms de personnes. Et là, il est en position, en finale du mot, voilà, bon, bref. Et donc Gwen doit être interprété certainement au sens de saint, favorable, qui a un sens qui lui est communément admis en vieux breton. Et surtout, la première mention du lieu Guérande, c'est très clair et très net, c'est dans le cartulaire de Redon, c'est au milieu du 9e siècle, et il est question d'une église que l'on appelle Gwenrande.
Donc c'est un lieu saint.
Donc c'est un lieu saint. Voilà. Et surtout, il n'y a pas de salines dans la ville de Guérande, elles sont à 2 km hein, du centre de la ville de Guérande, donc il est très douteux que la parcelle en question ait pu être chargée de sel à l'époque.
Donc voilà, c'est une interprétation qui paraît plus scientifique, parce que étayée par plus d'éléments.
Bah, disons qu'elle est plus conforme au mot, dans son sens, du vieux breton. Mmh. Voilà. Mais l'interprétation de Léon Maître était très jolie. On peut lui reconnaître ce talent, et d'ailleurs elle a eu un succès incroyable, parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît cette explication, cette expression, et elle est employée partout au pays de Guérande, pays blanc.
Voilà, c'est un pays blanc maintenant, c'est formidable. Eh bien, donc Bertrand, tu as plein de choses à dire sur le sujet, et tu pourras le dire mardi prochain, et les gens qui nous écoutent pourront venir te poser des questions, discuter avec toi. Ce sera donc mardi 21 mars à 20h au Centre culturel breton Jésus à Cévenadur, 12 avenue de Langevinière à Saint-Herblain, donc pour une rencontre à l'occasion de la sortie de ton livre. Et tu montreras aussi des cartes de Bretagne, oui, de Bretagne certes, mais du pays nantais, oui. Avec donc le nombre de.
Ben, j'expliquerai mes résultats, en tout, j'expliquerai donc ce que j'ai trouvé, je parlerai de certains toponymes, donc parmi les 4100 qu'il y a dans le livre, qui sont détaillés, beaucoup donc de noms de parcelles, de petits micro-toponymes.
Bon, en fait, tu pourras faire plusieurs conférences, donc tu reviendras certainement. Bien, merci beaucoup Bertrand.
Je te remercie Yves.
Kenavo.
Kenavo.